Bonjour à tous, nous sommes en direct de Radio Box. Nous accueillons Rolf Fellman. Il fait partie de la famille à Jérémy et il habite à Grange de Vezin. Il vient nous parler de l'élevage des lapins. Je passe la parole à Anthony et à Jérémy.
Vendez-vous des lapins ?
Oui, ils sont bons. Des privés, je les vends des fois vivantes, des fois tuées pour les manger.
Combien avez-vous de lapins ?
Maintenant, j'en ai une douzaine.
Vous voyez ça comme une passion ou un métier ?
Non, c'est une passion.
Combien avez-vous de races différentes ?
Maintenant, j'ai un lapin qui est de race, c'est de Fort Bourgogne, puis les autres, c'est de race commun.
Quel matériel utilisez-vous pour les lapins ?
Qui veut dire pour les nourrir ou bien pour quoi ?
Pour les nourrir.
Pour les nourrir, c'est du foin principalement. L'été, c'est de l'herbe, ils courent dehors. Après, il y a les grains qu'on peut acheter. Et puis aussi des cubes, différentes choses, même du maïs, de pommes, un peu de tout.
Avez-vous de la pro ?
De ?
De la pro ?
Non, pas actuellement, non.
Avez-vous des lapines ?
Oui, j'en ai quatre.
Où les mettez-vous ?
Mais il y en a les lapines pour faire les petits, ils sont dans un clapier. Et puis les autres, ils courent dehors. Sur un terrain sur environ 300 mètres carrés, ils peuvent courir.
Avez-vous des champs ?
Un petit peu, ouais, mais pas grand-chose. C'est autour de la maison.
Quelle est la grandeur du parc ?
Environ 300 mètres carrés.
Faites-vous des concours ?
Non, je ne fais pas de concours avec.
Comment faites-vous pour l'hiver ?
L'hiver, mais je les laisse dehors. Puis il faut toujours regarder qu'ils ont de l'eau, aussi l'hiver, hein, ils ont soif quand même. Alors s'il fait trop froid, il faut vider l'eau, ça veut dire la glace qui est dedans, puis on met de l'eau fraîche. Il faut toujours faire attention qu'il y a de l'eau fraîche et toujours assez à manger.
Avez-vous d'autres animaux ?
Oui, j'ai encore des chèvres naines et puis des poules normalement.
Ont-ils déjà eu des maladies ?
Oui, ça arrive très facilement. Les lapins, ils ont très facilement des maladies, surtout s'il y en a trop. S'il y a trop de lapins, ou bien si on donne du pain, puis ils finissent par le pain, qui moisit, là ils sont tout de suite malades, puis ils meurent. C'est très difficile de les avoir après.
Un lapin est déjà mort à cause d'une maladie ?
Oui, il y en a plusieurs. Une fois que j'en ai acheté des lapins qui étaient malades, et puis, tous les miennes sont aussi venus malades. Là, j'ai eu beaucoup qui sont morts. Ouais.
Merci à Rolf qui nous a parlé de l'élevage des lapins. Nous allons écouter les sardines de Patrick Sébastien.
Faire une chanson facile, facile, faut d'abord les paroles débiles, débiles, une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6 ou 7 et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête.
Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates.
Bien sûr que c'est vraiment facile, facile, c'est même complètement débile, débile. C'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête. C'est fait pour se toucher, se frotter les arêtes. Alors on se rassemble à 5, à 6 ou 7. Et puis on saute ensemble en chantant à tue-tête.
Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre lui et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre lui et les aromates.
Et puis, pour respirer un petit peu, on s'écarte en se tenant la main. Et puis, pour être encore plus heureux, on fait la 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 en chantant mon refrain.
En direct de Radio Box, nous accueillons Sébastien Brugère. Il est le papa de 3 enfants. Une de ses filles s'appelle Manon, qui vient nous parler de son métier bûcheron. Je passe la parole à Manon Brugère.
Pourquoi avez-vous choisi le métier de bûcheron ?
Alors, j'ai fait le métier de bûcheron parce que la nature m'intéressait. Être dehors, pas dans un bureau. Être en relation avec la nature, les arbres, le froid, la pluie.
À quel âge avez-vous débuté votre métier ?
Alors, j'ai commencé l'apprentissage en 1990, j'avais 16 ans.
Quelle tâche préférez-vous faire dans votre métier ?
Alors moi, ce que je préférais le plus, c'était abattre les arbres. Mais il y avait aussi le débardage, c'est le travail qui consiste à tirer avec un treuil et un tracteur l'arbre au bord du chemin pour qu'il puisse être amené à la scierie.
Utilisez-vous une tronçonneuse ?
Alors, la tronçonneuse, l'hiver, c'est l'outil principal du bûcheron. Avant, il y a bien des années en arrière, on employait encore une scie, mais maintenant, c'est une scie à moteur, une tronçonneuse.
Est-ce que vous vous êtes déjà blessé avec des outils ?
Oui, je me suis coupé une fois un doigt. Ça m'a fait 2-3 points de suture. Sinon, avec la tronçonneuse, je me suis jamais blessé.
Travaillez. Vous, par tous les temps ?
Alors oui, le travail du bûcheron se fait par tous les temps. S'il fait très chaud, très froid, qu'il pleuve, qu'il neige. Après, des fois, on adapte le travail selon la météo, mais oui, ça se fait par tous les temps.
Que faites-vous comme tâche sur une journée de travail ?
Alors, ça dépend à quelle époque de l'année on est. Si on est en hiver, on va couper des arbres toute la journée. Si on est au printemps, on va planter des jeunes arbres, on va faucher les ronces. Des fois, on fait des places de pique-nique. On entretient les routes. Il y en a encore plein d'autres.
Utilisez-vous un véhicule en forêt ?
Qu'est-ce que tu entends par véhicule ? Une voiture pour se déplacer jusqu'à la forêt ? Dans la forêt.
Dans la forêt.
Dans la forêt, alors, on utilise des tracteurs, on peut utiliser des porteurs, des machines avec des grues pour transporter le bois, des machines qui abattent les arbres, les abatteuses. En gros, c'est ça.
Combien d'arbres abattez-vous sur une journée ?
Alors, ça dépend de la grosseur des arbres. Si c'est des petits arbres qui font 10 cm de diamètre, je n'ai jamais vraiment compté, mais je pense une 30-40. Mais si c'est des arbres qui font 1 mètre de diamètre, une fois qu'on en a fait 2 ou 3, selon les branches qu'ils ont, on aura très bien travaillé.
Est-ce que vous vous êtes déjà perdu en forêt ?
Alors non, ça ne m'est pas arrivé, ça. Il n'y avait pas assez de brouillard pour que je ne retrouve pas mon chemin.
Quel arbre préférez-vous ?
Alors moi, je préfère le chêne. Parce que le chêne, il vient très vieux, il est très solide, c'est un bois noble, comme on dit.
Est-ce que les arbres sont malades quand vous les abattez ?
Alors, pas tous. Des fois, l'été, il y a des attaques de bostriches, le petit insecte qui attaque les épicéas, là, qui les fait sécher, ils viennent tout rouges. Alors là, on les abat, c'est pour endiguer la maladie, pas que la maladie se propage aux autres. Mais l'hiver, quand on fait l'entretien de la forêt, les arbres sont sains.
Avez-vous déjà eu des tiques sur vous?
Oui, j'ai déjà été piqué plusieurs fois par des tiques. J'ai même eu la maladie de Lyme, la borréliose.
Avez-vous des habits spéciaux pour travailler en forêt?
Alors oui, pour travailler en forêt, surtout avec la tronçonneuse, il faut des habits spéciaux. Il faut un casque, des gants, une veste de couleur voyante, que nos collègues nous voient bien où on est, et surtout des pantalons de protection, qui ont 10 couches de nylon pour se protéger de la chaîne de la tronçonneuse.
À quoi devez-vous faire attention dans votre métier?
Qu'est-ce que je dois faire attention à mon métier? Alors, c'est quand même un métier qui est très dangereux. Donc, effectivement, il y a plein de choses à regarder, surtout quand on abat des arbres. Là, il y a des risques spéciaux. Faire attention à ses collègues aussi, pour ne pas les blesser ou les tuer. Mais il faut faire attention, avoir les yeux en face des trous, comme on dit.
Est-ce que vous faites des sculptures avec le bois?
Alors non, ça c'est pas dans mes spécialités, ça c'est un truc qui m'a jamais vraiment intéressé. J'en ai eu fait des tout petites là, des petits sapins de Noël là, tout simple, mais il y a des vrais sculpteurs là, des gens formidables qui font des trucs incroyables, ça c'est pas mon truc.
Quel animal voyez-vous régulièrement en forêt?
Alors on voit des lièvres, des renards, des fois ça arrive des cerfs, des chevreuils, des chats.
Merci. Je passe la parole à Léonie.
Merci Sébastien Bougère qui nous a parlé de son métier boucheron. Nous allons écouter Laissez-nous chanter de Kids United.
Nous sommes en direct de Radio Bols. nous accueillons Danny Santos. Il a 2 enfants dans notre cercle scolaire. C'est l'entraîneur de 6 élèves dans notre classe qui vient nous parler du foot. Je passe la parole à Noah et Leandro.
Pourquoi avez-vous choisi le foot comme sport ?
J'ai choisi le foot parce que, en étant jeune, j'ai toujours fait du foot. Je suis originaire du Portugal et c'est une vocation là-bas. On est avec un ballon dans les pieds, on va dire ça comme ça. Et voilà pourquoi le choix du foot, parce que c'est quelque chose d'amusant, on peut s'amuser, on peut jouer en équipe, on a plein de copains. Et surtout pour le plaisir de jouer au foot. Et on se compare toujours à des stars, donc automatiquement... c'est beaucoup plus facile de faire du foot que de faire un sport qui est inconnu. Donc voilà pourquoi le choix du foot.
Est-ce que les joueurs sont gentils ?
Ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui sont gentils, il y en a d'autres qui sont moins gentils, mais sur le fait qu'ils seront moins attentifs, ils vont moins écouter. Mais sinon, ça se passe très très bien. Je suis très très content d'être l'entraîneur de tous ces petits joueurs qui ont envie d'apprendre et c'est super intéressant.
Avez-vous été un professionnel ?
Alors non, je ne suis pas arrivé à ce stade-là. J'ai joué à un excellent niveau, j'ai joué en première ligue. Donc c'est juste le petit échelon qui est juste en dessous d'arrivée professionnelle, mais malheureusement à l'âge de 16 ans, j'ai eu une grave blessure au niveau du genou, et ce qui m'a arrêté, tout simplement, pendant 2 ans où j'ai pas pu faire du foot. Et après, bah voilà, j'ai essayé de revenir à un niveau qui était plus ou moins élevé. Mais après ma blessure et après ces 2 ans, je suis quand même arrivé à jouer en deuxième ligue pendant des années. Et puis après, la vie fait que on se marie, on a des enfants, on a un travail qui est plus prenant, donc on a moins le temps. Et puis c'est ce qui m'a fait gentiment arrêter le foot.
Arrivez-vous à préparer les exercices tout seul ?
Oui, parce que en étant dans le groupement dans lequel je suis, étant le seul entraîneur d'une des équipes, vu que actuellement nous avons 5 équipes de Junior F, qui correspond à 40 jeunes qui ont entre 7 et 9 ans, on va dire, il y a beaucoup plus d'entraîneurs, on est 9 entraîneurs pour 5 équipes. Mais du fait que j'ai un petit peu d'expérience, On m'a laissé tout seul avec une seule des équipes. Donc, je dois gérer mon équipe, faire les entraînements de mon équipe, alors que toutes les autres équipes sont 2 entraîneurs. Mais on arrive à se coordonner les uns et les autres pour organiser un entraînement qui soit bien pour tout le monde et pour les enfants surtout.
Quelles sont les qualités pour être entraîneur ?
Question difficile. Je pense que c'est... Il faut aimer les enfants, il faut aimer l'enseignement, il faut être formé avant tout. On voit beaucoup d'entraîneurs qui ne le sont pas et qui n'ont pas forcément cette approche avec les enfants. Le fait de leur enseigner le foot, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'il faut être à l'écoute des enfants, des parents, de l'entourage. Et puis, il faut surtout essayer d'enseigner le foot aux enfants et leur montrer que c'est pas uniquement des victoires ou des défaites, mais c'est vraiment la principale des choses qu'il faut avoir dans le foot. Et en tant qu'entraîneur, c'est donner du plaisir aux enfants. Lorsque tous les entraîneurs auront compris ce genre de choses, je pense qu'on pourra avancer beaucoup plus vite aussi dans l'enseignement de tous les enfants pour leur montrer que même si on perd un match, on peut avoir du plaisir. Et pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit à la fin des entraînements ou à la fin d'un match, malgré une défaite, c'est que les enfants ils ressortent avec le sourire. Et ça, c'est quelque chose de très, très important pour moi.
Êtes-vous un bon entraîneur ?
Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est surtout aux joueurs. Est-ce qu'ils ont du plaisir à être avec moi ? Est-ce qu'ils ont du plaisir à être entraînés par moi ? On peut pas s'auto-estimer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra poser comme question à des joueurs comme Noah ou Leandro ou Tom ou Jérémy. Des joueurs qui me connaissent, ou même Anthony, que je vois juste à l'arrière, là. C'est à eux qu'il faut poser la question, c'est pas à moi.
Quelle est votre équipe préférée ?
J'en ai plusieurs. J'ai Benfica, c'est mon club de cœur, c'est une équipe de Lisbonne, au Portugal, qui est, c'est une équipe de mon enfance. Et puis, bien sûr, il y a le FC Barcelone, que tout le monde connaît. Qui font du joli jeu, qui jouent bien au foot, qui ont des joueurs extraordinaires. Et puis, ils ont une philosophie de jeu qui est portée sur l'offensive, où les joueurs prennent du plaisir et jouent en équipe. Et voilà pourquoi j'aime ces deux équipes.
Et votre joueur préféré ?
Je dirais Léo Messi.
Si vous le pouviez, que changerez-vous au foot ?
Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un travail sur les entraîneurs, que tous les entraîneurs qui travaillent avec des jeunes soient essentiellement formés et qu'on ne mette pas n'importe qui à entraîner des jeunes sans qu'ils aient un minimum de formation. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le groupement dans lequel je suis. Et puis, je pense que c'est important pour donner de bonnes bases aux enfants, que ce soit sportive ou individuelle ou personnelle, ou dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est hyper important. Et j'essaie justement de coacher un petit peu les entraîneurs qui ont moins d'expérience que moi et de leur montrer que c'est important de donner de bonnes bases aux enfants. Et donc, on essaye. On essaye de former les joueurs, de former des entraîneurs. Mais malheureusement, certaines personnes ne désirent pas se former. Donc, c'est difficile. Mais on essaye d'apporter un maximum de soutien aux gens qui ne veulent pas se former pour qu'ils puissent former eux-mêmes de bons joueurs ou des joueurs simplement pour le plaisir.
Merci à Dani Santos qui nous a parlé de foot. Nous allons écouter Riz, le pirate de Black Pearl. Thank you.
Bonjour, nous nous retrouvons sur Radio Box et maintenant Iliana et Salomé vont interviewer Elina Rijakova. C'est la maman d'Emilina. Elle a 36 ans et elle a son écurie à côté de ses ailes. J'espère qu'elle va nous apprendre des tas de choses.
Merci Julie. Bonjour Elina.
Bonjour.
Où habitez-vous ?
Actuellement, nous habitons à Neuvilly.
Avez-vous des poneys ?
Alors non, moi j'ai des grands chevaux.
Depuis combien de temps faites-vous de l'équitation ?
Alors depuis très très longtemps, j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 10 ans. J'ai commencé par un tout petit poney. Et puis après, on m'a donné un poney un petit peu plus grand qui s'appelait Domino. J'ai fait 4 ans avec Domino. Et après, j'étais repérée par un entraîneur national russe qui m'a inclus dans l'équipe nationale russe par la suite et puis qui m'a pris sous son aile pour m'entraîner afin que je puisse faire les concours à haut niveau et puis partir en international avec les chevaux.
Pourquoi faites-vous du cheval ?
Avant tout parce que je les aime. Ça a toujours été mes animaux de rêve que j'ai toujours adoré depuis toute petite. Et depuis que je sais marcher et parler, j'ai toujours dit « j'adore les chevaux, j'aurai un jour un cheval ».
Vous vous êtes déjà blessée ?
Oui. des fois gravement, des fois un petit peu. Mais j'ai eu une grave blessure où j'étais paralysée, c'est pour ça que j'ai dû abandonner la compétition.
Quelle discipline y a-t-il dans un concours ?
Alors, il y a plusieurs sortes de concours, mais des concours principaux dans la monte. Ce qu'on dit classique, ça veut dire anglaise. Il y a le concours hippique, donc concours de saut, concours de dressage et les concours de military. Les concours de military, ils incluent le concours de saut, le concours de dressage et par la suite le cross. Le cross, c'est quand le cheval il est dans la nature et puis il saute par-dessus les ravins, par-dessus les troncs d'arbres. Mais c'est un parcours qui est construit.
Combien de chevaux avez-vous ?
Maintenant, j'ai 3.
Préférez-vous les poneys ou les chevaux ?
Alors, j'aime les deux. Les poneys sont plus choux, plus poilus et puis beaucoup plus malins. Et les chevaux, c'est plus grand, c'est très différent, c'est beaucoup plus sage.
Quelle est votre race préférée ?
Alors, ma race préférée, c'est des Lusitaniens, c'est des chevaux portugais et espagnols. D'ailleurs, je les ai. C'est des chevaux extrêmement intelligents, ils ont des belles crinières très longues. Alors, c'est des vrais chevaux de princesse. Alors, c'est pour ça que je les aime beaucoup.
Avez-vous des juments ou des étalons ?
Que des étalons.
Quel jour faites-vous de l'équitation ?
Alors, maintenant, je le fais très rarement, quand j'ai le temps, parce que j'ai beaucoup d'obligations. Mais avant que j'ai eu Emilina, je montais tous les jours, minimum 4 chevaux.
Quelle race avez-vous ?
Alors là, j'ai un pur sang lusitanien. Un pur race espagnol, et puis un qui est croisé. Donc j'avais une jument allemande, et son papa, il est toujours chez moi, c'est le pur sang lusitanien.
Avez-vous un meilleur souvenir ?
Le meilleur souvenir, je pense, c'est celui quand j'ai vu mon cheval naître. Quand j'ai pu être présente, quand ma jument a donné la vie à Vindy. C'était très beau à voir.
Aimez-vous les balades en forêt ?
Ah oui, j'adore ça.
Préférez-vous être seule ou accompagnée pour s'occuper des chevaux ?
Alors, des fois, je préfère être seule, surtout quand je dois les soigner. Comme ça, ils sont plus concentrés sur moi. Mais autrement, j'adore quand Emilina m'accompagne et puis quand elle m'aide à m'occuper des chevaux.
Aimez-vous aussi faire les balades en charrette, en calèche ?
Ah oui, ça, c'est mon rêve.
Est-ce que les chevaux sont vos animaux préférés ?
Oui, je dois avouer que oui.
Quelle championne préférez-vous ?
Actuellement, malheureusement, aucune. Parce que je n'aime pas la direction que le sport a pris. Il y a beaucoup de souffrance.
Est-ce que vous vous occupez toute seule de vos chevaux ?
Alors, le week-end, oui. Autrement, dans la semaine, j'ai une fille qui vient m'aider à faire les boxes 3 fois par semaine. Sinon, c'est moi qui fais tout.
Vous aimez faire les balades le matin, l'après-midi ou le soir ?
Plutôt, en été, plutôt le matin, parce qu'il n'y a pas de mouches. Et puis en hiver, l'après-midi, parce qu'il fait plus chaud.
Préférez-vous trotter, galoper ou au pas ?
Les trois. Si les conditions le permettent, j'aime beaucoup trotter et galoper, mais autrement, j'apprécie beaucoup les balades au pas aussi.
Quelles sont les parties du corps des chevaux ?
Alors, il y a la tête, avec des oreilles, des yeux, la bouche et le nez. Il y a l'encolure, qui est comme le cou chez nous. Il y a le dos, sur lequel on pose la selle. Et il y a des jambes, avec la queue pour chasser les mouches.
Quel équipement avons-nous besoin pour monter à cheval ?
Alors, le cheval a besoin d'une bride, d'une selle. Et le cavalier a besoin d'une bombe pour protéger la tête en cas de chute. D'une chemise ou d'un t-shirt, un pantalon d'équitation ou un leggings qui est proche du corps, qui ne forme pas de plis pour ne pas blesser, pour ne pas qu'il y ait des frottements entre la selle et la jambe, et des bottes, afin de protéger aussi les chevilles en cas de chute, et aussi pour éviter que les mollets frottent contre la selle, et les gants pour protéger les mains.
Et maintenant, je passe la parole à Emilina.
Merci à Elina Ryzhakova d'être passée chez nous, qui nous a parlé des chevaux et elle nous a appris beaucoup de choses sur les chevaux. Et maintenant, nous allons écouter Kenji Mekemeo et merci encore à Elina.
Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Viens mon flamme, de lo soleil couché, chauffe mon âme, jamais, jamais calme. Viens mon flamme, depuis qu'on se connaît, jamais en pas. Avec toi je plane. J'ai toujours le cœur en été, comme une étincelle à mes côtés, comme un feu qui me colle à la peau. J'ai toujours le cœur en été, comme si l'hiver était de trop. Moi j'ai toujours le sang chaud. Io. Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Ay, sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo. Con mi sonido te caliento y sube, sube, sube la calor. Viens m'enflamme, jusqu'à la nuit tombe, envoûte mon âme, jamais, jamais calme. Hey. Viens m'enflamme, sans jamais t'arrêter, jamais en panne, avec toi je plane. J'ai toujours le cœur en été, comme une étincelle à mes côtés, comme un feu qui me colle à la peau. J'ai toujours le cœur. Comme si l'hiver était de trop. Oh, j'ai toujours le sang chaud. Io. Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Y sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Y sube, sube, sube la calor.
La musique ferait danser avec moi. On chante avec moi. Si tu veux tout oublier, laisse la musique ferait danser avec moi. On chante avec moi.
Quemo, quemo, esta noche quemo. Y los bomberos miran el fuego. Me vuelve loco con el sonido. Y con mi gente jamás vencido. Quemo, quemo, esta noche quemo. Y los bomberos miran el fuego. Me vuelve loco con el sonido. Y con mi gente jamás vencido. Te caliento, ay, sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento y sube, sube, sube la calor.
En direct de Radio Box, nous allons écouter Fred Fazel, il a deux enfants dans notre serre scolaire, qui vient nous parler de camions. Je passe la parole à Sarah et à Fanny.
Merci Jessica. Bonjour Fred Fazel. Est-ce que c'est votre métier ou votre passion ?
Bonjour, c'est mon métier, c'est ma passion en même temps. J'adore les camions, c'est pour ça que j'ai fait ce métier de chauffeur de camion.
Quel jour vous travaillez?
Du lundi au vendredi, comme tout le monde.
Où vous travaillez?
Sur les routes, en tant que chauffeur de camion, je suis sur les routes toute la journée.
À quelle heure?
Ça peut être de 5h le matin jusqu'à 10h le soir.
Et pourquoi vous avez choisi ça?
J'aime bien me promener sur les routes, voir du pays, plein de choses.
Où vous transportez?
Moi, je transporte dans la région, Roche de Vezin, au Mans, Neuvilly, un peu plus loin jusqu'à Fribourg, même jusqu'en Valais.
Qu'est-ce que tu transportes?
Je transporte du gravier principalement.
Pour qui?
Pour plusieurs entreprises de construction. C'est-à-dire, par exemple, dans la région, il y a une entreprise qui s'est travaillée, Mouron, la Grange de Vezin, Weibel.
Combien de trajets vous faites?
Ça peut être de un trajet jusqu'à 10 trajets par jour.
Est-ce que tout le monde te téléphone?
Oui, il y a les entreprises qui me téléphonent, mes chauffeurs. J'ai beaucoup de contacts.
Combien vous avez d'employés?
J'ai 9 employés.
Quelle formation vous avez?
Moi, comme formation, à la base, je suis électricien, mais j'ai fait mon permis par après. Ça fait 18 ans que je roule en camion.
Combien de camions vous avez?
10 camions.
À qui ils sont?
À l'entreprise pour qui je travaille.
Faut-il des permis spéciaux?
Oui, il faut des permis spéciaux.
À quoi ça sert les camions?
Transporter du gravier, tu peux transporter des yogourts, tampons, plein de choses. Du blé.
Quel matériel est le plus utilisé?
Pour transporter. On peut transporter beaucoup de choses. Du gravier, des yogourts, du blé, de la terre, plein de choses avec les camions.
Et qui répare?
Des garages. Je vais tout au garage réparer.
À quoi ça sert le matériel?
Que je transporte, c'est pour refaire des routes, pour manger ton midi, pour les yogourts, pour des pâtes, pour tout transporter par camion, des pommes de terre, pour tout le monde, quoi.
Combien y a-t-il de matériel?
Beaucoup. Beaucoup. Je ne peux pas te dire exactement le nombre de matériel qu'il y a.
Je passe la parole à Jessica.
Merci à Fred Fazet qui nous a parlé de camions. Nous allons écouter les ricochets de Kids United.
J'aurais pu être un mot, un boutchou qui sourit et se fout d'être mouillé comme de la dernière pluie. Mais c'est un bateau qu'un ciel ordinaire ne cesse de peser sur nous comme un enfer.
Moi ce que je vous laissais jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici.
Moi ce que je vous laissais danser pour faire tomber la pluie. Et je vous regarde creuser.
Je vous regarde creuser la terre.
manger. Mais juste un peu d'eau pour faire des ricochets.
En direct de Radio Box, nous accueillons Marianne Bourgui, c'est la prof de flûte de Pacôme qui nous a venu parler de la flûte. Je passe la parole à Pacôme et à Tom.
Merci Jean-Pedro.
Bonjour Marianne Bourgui.
Bonjour.
Est-ce que c'est votre métier ou votre passion?
Alors, la flûte, c'est plutôt une passion qu'un métier, mais c'est devenu mon métier finalement.
Pourquoi avez-vous choisi de faire la flûte?
Alors, j'ai choisi de faire la flûte parce qu'en fait, c'est cette profession qui m'a choisi. Quand je suis arrivée à QG, il y a eu un incendie chez la dame qui faisait les cours de flûte. Et puis, elle cherchait quelqu'un pour l'aider parce qu'elle avait plein de choses à faire, nettoyer sa maison plutôt que de donner des cours. Puis, j'ai commencé comme ça. Puis, ça fait 20 ans. Puis, ben, je donne toujours des cours. Donc, ça me plaît maintenant.
Quel jour faites-vous les cours?
Le lundi après l'école et puis le jeudi après l'école.
Combien d'élèves avez-vous?
Cette année, j'ai 16 élèves. Mais ça varie entre 12 et 22, 24 élèves selon les envies de chacun.
Où faites-vous les cours?
À la grande salle de QG, dans une salle avec un piano et puis un tableau.
Quel est le matériel à utiliser pour la flûte?
Alors, tu voulais savoir quoi par rapport au matériel?
Le matériel à utiliser, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour nettoyer la flûte ou...
D'accord. Alors, les flûtes, vous les avez en plastique pour la plupart. Donc, on peut les nettoyer avec simplement un petit chiffon. On a des petites barrettes pour passer dedans. Et puis, simplement de les faire tremper dans l'évier avec un peu de savon quand ça vient trop sale. Et puis, de les laisser sécher une nuit, ça passe très bien. Puis, pour ceux qui ont une flûte en bois, il existe des espèces de petits plumets qu'on passe dedans pour récupérer la salive.
Quelle est la manière de jouer?
Quelle est la manière de jouer? Tu veux...
Enfin, là...
Si on joue seul, si on joue en groupe, c'est ça?
Oui.
D'accord. Alors, au début, on apprend à jouer tout seul, les quelques premiers cours, parce que il faut déjà arriver à souffler, à mettre ses doigts comme il faut, à comprendre, à lire les notes. Et puis gentiment, au bout de 2-3 mois, mon but à moi, c'est de vous faire jouer tous ensemble, parce que c'est ensemble qu'on prend du plaisir à faire de la musique, c'est pas tout seul dans son coin. Donc je commence à faire à des groupes.
Quelle est la flûte que vous utilisez?
Alors j'utilise pour moi et les élèves la flûte soprano, c'est la flûte traditionnelle, flûte à bec. Et puis j'ai aussi toute la famille des flûtes, de la toute petite flûte, la sopranino, qui fait à peu près 12 cm, qui est très aiguë, la flûte soprano, puis après la flûte alto, qui est un peu plus grande, qui fait une cinquantaine de centimètres, la flûte ténor, qui est encore plus grave, puis la flûte basse, qui est tout grave. Et puis en fonction de l'effet que j'ai envie de donner, et puis si j'ai envie de vous habituer à d'autres sons ou pas, ou de ce qui est écrit simplement, je choisis avec quelle flûte je joue avec vous.
À quel âge on peut commencer de faire la flûte?
Alors moi j'aime bien prendre les élèves en première primaire, maintenant ça s'appelle 3H, pardon, ça fait à peu près 7 ans, parce que vous apprenez à lire les lettres à l'école, vous apprenez la ponctuation, vous apprenez qu'on lit de gauche à droite, etc. Et puis la musique finalement c'est un peu la même chose, il y a des notes, il y a des silences, et puis ça fait un parallèle assez facile, et puis ça c'est un âge idéal. Après on peut aussi apprendre plus tard, j'ai des élèves qui commencent plus grands et puis qui ont déjà appris une partie des notions de base à l'école avec les maîtres et maîtresses.
Combien de temps faut-il à un élève pour qu'après il arrête la flûte et qu'il choisisse un autre instrument?
Alors à QG, moi je ne suis pas indépendante, c'est la fanfare qui m'engage. Alors eux, ils ont estimé qu'il fallait entre 1 et 2 ans de flûte pour choisir un autre instrument. Si on part sur le tambour, par exemple, au bout d'une année, on a déjà des notions suffisantes. Si on commence tard et puis qu'on a déjà appris plein de choses à l'école, une année ça suffit aussi. Puis autrement, au bout de 2 ans, en règle générale, c'est idéal pour choisir un autre instrument. Après, dans d'autres structures, c'est différent. C'est comme ça que ça se passe à QG.
Comment faites-vous pour choisir les morceaux de musique?
Alors, il y a les morceaux qui sont tout au début, quand on connaît 2-3 notes, il n'y a pas tellement de choix de morceaux. Je sais que Premier Noël, Vive le vent, c'est le seul morceau de Noël que vous arrivez à jouer après 3 mois de flûte. Puis après, j'essaye aussi un peu de faire écouter aux enfants des morceaux, ou bien eux arrivent en me disant « moi j'aime bien ça, est-ce qu'on pourrait jouer ça ?» Ou bien alors il y a tout d'un coup un film super de Walt Disney ou de Pixar qui sort avec une très belle musique comme La Reine des Neiges, et puis du coup on joue quelques musiques de ce film-là, enfin ça dépend un peu, je change, je varie.
Quel est votre morceau préféré?
Alors, à la flûte, je pense que le morceau préféré, c'est l'hymne à la joie. Et puis après, moi, j'écoute toutes sortes de musiques, que ce soit de la flûte ou bien du classique, du moderne, aussi des brass bands, de la fanfare. Et puis j'ai plein de morceaux favoris, mais à la flûte, je pense que c'est l'hymne à la joie.
Quelle qualité pour être une prof?
Il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer les enfants. Et puis, aimer la musique, aimer les enfants, voilà.
Êtes-vous une bonne prof?
Je te retourne la question, Paco, je suis une bonne prof?
Oui.
Oui, ça va. Je pense que, ça fait 20 ans que je fais ça, donc si je jouais, j'étais pas une très bonne, une bonne prof, je pense qu'il y aurait déjà longtemps que j'aurais arrêté, j'adore faire ça. À part avec mes enfants, là, c'était très compliqué, c'est pas facile.
Comment faites-vous pour les élèves pas très forts?
J'essaye de faire en sorte qu'ils apprennent quand même, qu'ils arrivent. On trouve toutes sortes de parades pour leur faire comprendre. Des fois, ça passe par agrandir des partitions parce que c'est un problème de vue, ou ça passe par donner un petit peu plus de voix à celui qui est un peu plus fort ou un petit peu moins. Enfin, on trouve toujours une solution. Et puis voilà.
Est-ce que vous faites des concerts?
Alors oui, chaque année on fait des concerts avec les flûtes. Le premier il est à Noël, le deuxième c'est durant les soirées de la fanfare, et puis un dernier en été pour faire la fête, pour se dire au revoir avant les vacances. Et puis j'ai fait toutes sortes de concerts aussi en dehors de la flûte.
Est-ce qu'il y a déjà eu des amis qui sont venus voir... regarder faire des concerts?
Bien sûr, plutôt la famille aussi, mais oui, il y a du public.
Est-ce qu'il y a déjà eu un concert qui a été gâché par quelque chose?
Non, j'ai pas l'impression que ça a été gâché par quelque chose. On essaye toujours de faire en sorte que ça aille. Puis avec les flûtes, si ça part tout de travers, on arrête tout puis on recommence. Parce que ça sert à rien de laisser un mauvais souvenir.
Combien de concerts faites-vous par année?
Alors, fixe 3. Et puis, parfois, on joue à l'église entre deux. Et puis, j'ai aussi fait partie d'une Google Music il y a quelques années. Ça arrive qu'on refasse un concert parce qu'ils redemandent des anciens. Ou à l'occasion d'un baptême.
Merci Marianne Bourri qui nous a venu parler de flûte. Nous allons écouter Gamnam Style Popsy.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해, 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 아름다워 사랑스러워 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 지금부터 갈 때까지 가볼까? Go, go, go! 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남스타일.
여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까
오빤 강남스타일